En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Terre de Chiang Kai-shek était devenu le directeur du musée de Taipei, justement. Et voilà. Donc, il avait sélectionné une partie des pièces. Il faut savoir que pour on allait dans les troisièmes sous-sols du musée, il fallait mettre un masque, des gants pour toucher les pièces. C'était quelque chose. On a pris moins de précautions en France quand elles sont arrivées, quand même.
Voilà. Absolument.
Alors, pour parler de deuxième sujet, c'était bon, l'Élysée. Bon, moi, je démarrais vraiment dans la profession. C'était dans les années 82, 83. Et le ministère de la Culture, à l'époque, a appelé une dizaine de concepteurs. Et pour réaliser les appartements, c'était les appartements où devait vivre François Mitterrand et son épouse. Et donc, on a eu chacun une pièce qui nous a été donnée. Donc, moi, j'avais la chambre... J'avais la chambre de Madame Mitterrand à faire, et donc j'ai fait un projet. Et puis chacun, il y avait Ronald Sport, il y avait Marc Held et Philippe Stark. Et donc on fait la présentation un jour devant le couple présidentiel. Et Philippe Stark leur dit au président, à François Mitterrand, dit, moi je vous imagine comme Ulrich, vous savez, le personnage de la... des bandes dessinées Black et Mortimer, je vous imagine maître du monde, je vais vous faire une chambre exceptionnelle, vous allez bien, je vais mettre la terre, le tout, enfin bon. Alors il lui parle pendant un quart d'heure comme ça, et je voyais Mitterrand qui s'effondrait dans son fauteuil, et le lendemain, on a eu un coup de fil, et Philippe Stark a pris la chambre de madame, et moi j'ai pris la chambre de monsieur, ils ont permuté les tricolores, qui existe toujours d'ailleurs, qui est toujours...
Oui, tout à fait. Voilà. Bon, alors donc, tu refais la chambre du président de la République, et puis... Là-dessus, cette chambre est refaite, il pénètre dans cette chambre, bon, toi tu ne sais pas, est-ce qu'il t'a convoqué pour te dire, voilà ce que j'en pense, il faudrait voir ceci ou cela? Non, ça ne se passe pas comme ça.
À peine, oui. Non, mais on avait beaucoup de rendez-vous de chantier, mais il passait sur le chantier avec la plupart de ses visiteurs, il leur faisait visiter le chantier, voilà.
Ouais.
Donc j'ai vu à l'époque... pas mal de présidents, de premiers ministres quand on était là par accident, quoi. Et non, tu veux dire l'anecdote qu'il y a eu, c'est que le jour où j'ai livré, un peu de temps après, j'ai été convoqué par son majordome et je suis rentré dans une des pièces qui n'était pas sa chambre mais à côté, il y avait toutes ses chaussures, ses vêtements, tout était par terre. Et le majordome m'a dit, le président m'a demandé de vous convoquer pour vous montrer ça. Et en réalité, il n'était pas content parce qu'il n'y avait pas assez de place pour ranger ses affaires. Et puis il avait aussi des chaussures avec une demi-pointure entre le matin et l'après-midi. Alors donc il y avait beaucoup de chaussures et il fallait trouver des endroits. Mais la meilleure façon de me demander de trouver des rangements, c'était de mettre tout par terre. Je constate qu'il n'y avait pas de place.
Bien ce qu'il en était. Voilà. Voilà. Bien. Eh bien écoute, je propose que nous entrions un peu plus dans les définitions et en particulier celles de la doctrine qui est la tienne, c'est-à-dire que au fond tu aimes beaucoup remettre en état les monuments, les bâtiments, les espaces, et tu as une doctrine dans ce domaine que tu appelles faire revivre le patrimoine en danger et les réhabiliter. Et donc, comment est-ce venu ce goût pour la réhabilitation? Comment est-ce que tu as conçu ça avant de parler des projets? Ou alors là, c'est beaucoup plus que la réhabilitation. Mais enfin, quand même, ça, puisque nous allons avoir à parler d'un certain nombre de tes chantiers parisiens.
Je crois que c'est une de mes passions. J'ai eu la chance de travailler sur la mairie de Nîmes il y a une trentaine d'années. Oui. Et j'avais une carte de blanche et la mairie de Nîmes, c'était un très beau bâtiment extérieurement, mais intérieurement c'était quelque chose d'assez horrible. Il y avait des papiers peints adhésifs, il y avait des faux plafonds partout. Et quand on a fait des sondages, on a découvert des volumes extraordinaires avec des voûtes gothiques, avec vraiment une architecture du 15e, 16e, qui était de toute beauté. Et là, c'est là que j'ai eu la découverte, je me suis dit que ce serait passionnant de pouvoir juxtaposer le dessin contemporain avec les traces du passé. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne. On va peut-être y arriver. Et donc, c'était vraiment ma passion. Et je me suis dit que finalement, on pouvait créer un dialogue entre les lieux existants comme des sortes de racines et y mettre le témoignage et le savoir-faire de notre époque. Donc, j'avoue que c'est devenu presque une passion. Le premier, c'était cette Mérinime. Après, il y a eu le grenier à sel à Avignon. Puis après, il y a eu beaucoup de projets comme ça. Et je pense que ce dont tu peux parler, c'est peut-être le Collège de France.
Alors, on peut commencer par le Collège de France.
Ou tout dernièrement.
Oui.
Où après, il y a le couvent des Bernardins.
Les Bernardins et naturellement la cathédrale orthodoxe.
La cathédrale orthodoxe, c'est un bâtiment neuf.
C'est pas de la réhabilitation.
C'est un bâtiment neuf.
Bien sûr.
Un bâtiment qu'on a totalement démoli parce que je pense qu'il n'y avait
tout
vraiment rien.
Oui, oui.
Et si les projections marchent, je vous montrerai tout à l'heure.
Absolument, voilà. Oui.
C'est devenu une passion, c'est vraiment une passion, je me dis, de faire dialoguer les époques, oui. Faire dialoguer voilà. Les matériaux, ce qui m'intéresse énormément, c'est de donner des nouvelles fonctions à des lieux qui ont existé avec d'autres. Et les nouvelles valeurs d'usage qu'on peut donner à des lieux, et c'est quelque chose qui leur donne la possibilité de revivre sous la forme d'un hôtel, d'une mairie, de quelque chose d'autre.
On a fait des progrès là.
Oh là là.
Oui.
Voilà, c'est une passion. Alors à Paris, donc, je pense que le couvent des Bernardins, ça a été un sujet exceptionnel parce que imaginez-vous que le couvent des Bernardins, c'était quand même une. On peut mettre plein écran, s'il vous plaît. Le couvent des Bernardins, c'était quand même devenu un bâtiment 14-15e, et c'était devenu une caserne de pompiers.
Alors, est-ce que tu veux reprendre le fil au micro à partir des images alors, et les puis, images, il va falloir que tu les commandes
ici.
Pour que... On arrive à un résultat.
Non, je veux pas de chaise, non. Bon, écoutez, on ne peut pas mettre l'ordinateur. C'est ça, je vais bien dessus, là. Bon, alors, très très vite, je voulais montrer. Là, donc, notre agence existe depuis. Non, ça va. Non, laissez où c'était avant. Je me débrouille. Oh putain.
Aucun aperçu. Non. Voilà.
Voilà, ça marche. C'est bien. Merci. Je crois qu'on va vous engager. Hein.
Aziz, maintenant, on va passer à la technique banale. Fermeture des rideaux. Et de la lumière.
Bon, donc très vite, c'est pour présenter l'agence qui existe depuis 1975. On est 270 collaborateurs. On est installé un petit peu. Non, pas ces rideaux-là, les autres.
Les deux.
Bon, ok.
Non, on tire les rideaux, simplement.
Donc, c'est juste pour se présenter, mais comme on a perdu beaucoup de temps, je vais venir directement au but.
Ça ne marchera pas.
Voilà. Donc, je vous montre la...
Le bon Dieu n'est pas avec nous.
On peut éteindre les lumières, s'il vous plaît. Les lumières, les lustres.
Voilà.
Ah, merci, super.
Monsieur.
Voilà.
Merci.
Alors là, le centre orthodoxe, si vous voulez, c'était. C'est juste pour vous rappeler comment était Météo France il y a quelques temps. C'était ce bâtiment qui n'avait pas beaucoup d'intérêt architectural. Et c'est ce terrain, très étrange d'ailleurs, qui est tout en longueur. C'est une surface étonnante, qui a été racheté par la Fédération de Russie pour y installer la cathédrale orthodoxe. Donc je vous remonte ces photos parce que on a vite oublié ce que c'était avant. Hein. Et vous voyez ce bâtiment qui faisait l'entrée de l'avenue Rapp. Donc, dans le projet, même, il a été, à une époque, imaginé de pouvoir garder l'ancien, une partie de l'ancien bâtiment. Mais nous, on a travaillé sur quelque chose de tout à fait différent. Et alors, vous voyez, c'est derrière, vous avez des bâtiments que vous connaissez tous, bien sûr. Tout contre, là, ce sont les écuries d'un bâtiment qui appartient à l'Élysée. C'est là que sont logés du personnel de l'Élysée. Devant, ça s'appelle, je ne me rappelle plus le terme exact. Après, vous avez le...
Les écuries de Marly.
Non, c'est comment ça s'appelle. Et puis vous avez le musée. Vous apercevez le musée du Quai Branly. Et puis la Tour Eiffel. Donc vous voyez, le site était chargé déjà. Et donc la partie Élysée se trouvait ici sur la gauche, et la partie Météo France sur la droite. Mais vraiment, le bâtiment, il n'y avait rien à en tirer. Vous voyez, c'était dans il y a des trucs, voilà. Et donc c'était vraiment dans un état déplorable. On les a aidés aussi à le démolir. Alors ça, c'est un petit crobard que j'ai fait au tout début pour imaginer ce que ça pourrait devenir. Alors très vite, vous voyez où est implantée l'église. J'ai souhaité la mettre en retrait, parce que la mettre sur la scène, ça aurait été un petit peu trop voyant, et je trouvais intéressant l'enchasser entre les deux bâtiments, le bâtiment qui est le centre administratif et le centre culturel. Alors il y a quatre bâtiments sur ce terrain, donc l'église, la cathédrale elle-même, il y a le pôle d'éducation, c'est une école pour 150 élèves, et puis il y a le centre administratif et puis un petit centre culturel. Donc ça, c'est les esquisses, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment les hauteurs de ce bâtiment. Le bâtiment fait 36 mètres 25 et, en haut de la croix, et la partie construite 17 mètres. Voilà. Et donc vous voyez, maintenant, elle s'est vraiment intégrée dans le paysage français, si vous voulez, parisien. Et alors vous voyez, il était très important, quand on l'a présenté au monument historique et à la DRAC et à l'ensemble des autorités qui étaient chargées de dire oui ou non, de montrer qu'elle s'intégrait, vous voyez, très délicatement dans le site. Et vous voyez, maintenant c'est devenu quelque chose qui a pris sa place, et on aime toujours rappeler ce qu'il y avait avant et ce que c'est devenu. Alors, si vous voulez, c'était fait avec... d'abord, on a utilisé une pierre parisienne, enfin une pierre de Bourgogne, je veux dire une pierre française, qui est la pierre de Massangis. C'est une carrière qui est encore en exploitation en ce moment. Le principe, il est aussi... ce sont des lignes horizontales. C'est comme des sortes de corniches successives, comme ça, qui font une sorte de lit horizontal, et en alternance avec des parties vitrées lorsqu'on en a besoin, lorsqu'il y a des bureaux derrière. Voilà. Donc, le puissante culturel qui est devant, vous voyez, ça évite d'avoir la cathédrale qui se trouve vraiment sur la Seine et qui aurait été une visite un peu excessive. Tandis que là, on la découvre lorsqu'on arrive des quais et du pont. Voilà, oui, elle a pris toute sa position dans ce quartier. C'est comme des sortes de corniches successives qui se superposent. Et alors, on parlera aussi de, vous voyez, des cours intérieurs. On a recréé des jardins. Et puis il y a une sorte de rue que vous voyez ici qui, lorsque ce sera ouvert, je ne sais pas quand c'est prévu réellement, qui permet de passer de l'avenue Rapp directement vers les quais de la Seine. Vous voyez, c'est cette rue là maintenant qui devrait être ouverte d'ici peu de temps. Et à gauche, vous voyez l'hôtel particulier qui appartient à l'Élysée. Vous voyez, c'est assez intéressant de voir ces dessins. Oui, excusez-moi. Avant, ça, c'était l'image informatique que nous avions fait. C'est toujours intéressant. C'est l'image informatique qui a circulé avant que nous ayons l'autorisation. Je peux vous dire, je suis allé voir tous les ministres concernés, la mairie de Paris, et le genre de réflexion que j'avais, c'était de dire « Ah ben, si vous faites ça, mais sans les bulbes, ce sera parfait ». Généralement, c'était ce qu'on me disait à chaque fois. Alors, vous voyez, l'image, ça, c'était l'image et la réalité. C'est étonnant de voir que on a des outils informatiques qui permettent de faire des simulations aussi sophistiquées, vous voyez.
Mais je comprends les échanges avec les bâtiments historiques, les monuments
France,
historiques, et
la
puis
préfecture.
La mairie de Paris, la préfecture, etc. Mais pour emporter le chantier, c'était quand même d'abord avec les Russes, la discussion.
C'est très compliqué, il faudrait beaucoup de temps. En réalité, il y a eu un concours.
Ouais.
Et ce concours, nous sommes arrivés deuxième à ce concours. Donc, ils ont démarré une étude avec un cabinet hispano-russe. Et puis, ils ne se sont pas mis d'accord. Et surtout, le projet qui était prévu, c'était de mettre un très grand voile. Et ils se sont aperçus que le voile, il faisait 1,80 m d'épaisseur. Et là, ils n'ont plus voulu de ce projet. Et puis, à l'époque, le maire de Paris avait aussi refusé le permis. Donc, c'est à ce moment-là que nous avons été appelés, et que, en tant que numéro 2 du concours, et nous avons développé notre projet. Sachant qu'on l'a fait évoluer, parce qu'à vrai dire, dans notre projet initial, je n'avais pas osé faire les bulbes en or, je les avais fait en verre. C'était une structure métallique dans laquelle il y avait des formes en verre et ce n'était pas du tout reconnu par la religion orthodoxe. C'est pour ça qu'on n'avait pas été retenu premier. Voilà comment c'est passé. Alors ici, très vite, je vous montre techniquement, il y a un truc qui est très marrant, c'est qu'on a réussi à couler des bancs. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. On met deux structures métalliques et on coule du béton au milieu. Et c'était la première fois qu'on coulait une banche aussi haute qui faisait 17 mètres de haut. Vous voyez, en un seul morceau, on a coulé en deux après-midi et en deux journées, voilà. Et là, c'est pour montrer le détail, vous voyez, il y a 71 profilés différents sur toute la hauteur de l'église. En réalité, c'est la reprise un petit peu de la corniche un petit peu traditionnelle parisienne, mais c'est aussi une façon de faire vivre une façade dans laquelle, par exemple, celle-ci n'a pas de fenêtre. Celle de la cathédrale n'a pas de fenêtre. Donc, cette façade, elle vit, vous verrez, suivant le soleil, suivant l'heure dans la journée, où il y a des ombres différentes qui se font sur cette façade. Et là, c'est la technique pour accrocher. Ce sont des grandes lames d'inox que vous voyez là, sur lesquelles on accroche soit des parties vitrées, soit des parties en... C'est une sorte d'échelle. Imaginez une échelle comme une échelle de bibliothèque, et on vient accrocher les parties de pierre ou les parties de verre. Alors ça, c'est très intéressant. C'est chez Multiplace à Vannes. C'est un chantier naval qui fait normalement des bateaux, qui fait des trimarans, qui fait des bateaux, et qui récemment avait fait un projet extraordinaire. C'est le Solar Impulse, qui est l'avion
solaire
autonome.
Oui.
Et puis on est allé les voir, et ça les a énormément intéressés. Ils ont fait les moules, et c'est eux qui ont fabriqué ces bulbes. Alors ils voulaient jeter les moules il n'y a pas longtemps, j'aurais dit gardez-les, on ne sait jamais s'il y en avait une deuxième qui arrivait. Et d'ailleurs, je l'ai même dit au président, le russe. Hein. Alors voilà, ça c'est en métal composite, ça fait à peu près 5 cm d'épaisseur. Il y a une mousse et une coque rigide. Et les petits bulbes ont été faits en 4 morceaux et le grand en 8 morceaux. Et après, donc c'est les bulbes qui sont assemblés, et après on met le chapeau et après on met la croix. Alors vous voyez, elles étaient montées à blanc comme ça dans l'usine. C'était un travail magnifique, magnifique. Et imaginez aussi, il y avait les peintres étaient suspendus à des cordes comme des trapézistes, et puis mettaient les feuilles d'or. Sur les 5 bulles, on a mis 90 000 feuilles d'or. Un or spécial, maintenant il faut que je vous dise la vérité, c'est que ça s'appelle de l'or mat, mais en réalité c'est un mélange de 50% palladium et 50% or. Moi, je détestais l'or brillant qu'il y avait sur les monuments français un peu partout. Je trouvais ça trop...
Y compris aux Invalides ?
Y compris aux Invalides. Mais aux Invalides, c'est rythmé, c'est pas en totalité, c'est pas un aplat total.
Oui.
Alors que là, c'était un aplat. Donc, j'ai trouvé cet or mat, j'ai trouvé formidable. Et donc, je suis allé voir le patriarche à Moscou. J'avais amené un petit échantillon. Et je lui ai dit à un moment, écoutez, maintenant, en France, on met plus l'or qui est vulgaire et truc, on met cet or mat. Et alors, il me dit... Bon, bah tant pis, écoutez, on va faire ce qu'ils demandent, on peut pas s'opposer, puisque j'avais dit que c'était les architectes des monuments historiques, ils ont bon dos. Souvent, c'est les pompiers ou je sais pas qui, mais là, c'était les architectes des monuments historiques. Donc, il m'a donné son accord, Et alors, pour la petite histoire, maintenant, quand ils font visiter l'église, les guides disent oui. Ah oui, alors on a de l'or mat parce que ça a été refusé par les architectes des monuments historiques. Ils n'ont pas voulu de l'or. Ils m'ont vu. Bon, je trouve ça très drôle, mais je leur dis parfait. Pas la vérité. Mais voilà comment ça s'est passé. Je vous assure, c'est authentique.
Bien sûr.
Et vous verrez, vous voyez là, regardez ici, vous voyez les petites attaches là, les petits vides. Après, on a mis de l'or avec du verre. Et ça, c'est le patriarche qui m'a demandé de le faire. Je vais vous montrer un dessin tout à l'heure sur lequel il a griffonné. Il m'a demandé il voulait mettre de la lumière, vous voyez. Alors ça faisait un petit peu, vous voyez, foire à je sais pas quoi. Et donc, je lui ai dit, on va trouver une solution. Et donc, la solution, ça a été de mettre du verre. Et vous allez voir après. Donc ça, c'est l'usine. Alors on les a assemblés sur place, discrètement.
Ouais.
Et après, on les a montés. Et pour l'anecdote, le premier qu'on a monté, il y avait une cérémonie de ça, le constructeur Bouygues n'était pas sûr que ça allait rentrer. Ils l'ont monté en pleine nuit. Et j'ai un copain qui habite à côté qui m'envoie une photo en me montrant le bulbe dans la nuit, vous voyez. Et alors, je dis, c'est de moi, c'est un photomontage. Aujourd'hui, il y a tellement de photomontages, je n'y croyais pas. Et en réalité, c'est Bouygues qui l'avait essayé pendant la nuit pour être sûr que ça ne s'emboîte pas, pour ne pas être ridicule au cas où. Et, voilà. Ça, c'est des petites choses, des petites anecdotes tout le long. Vous voyez, c'est extraordinaire. Hein.
Bien sûr.
Extraordinaire. Après, donc, c'était posé comme ça. Alors, vous voyez, on met du bulbe, après le chapeau et la croix. Mais la grande croix au centre. Elle pèse 350 kilos, hein, je ne sais plus combien. Et elle est en inox massif et recouverte de feuilles d'or mat. Voilà. Et donc voilà. Là.
Et donc, quelles peuvent être les attaques du temps sur...
Cet or, il se patine bien, il se durcit avec le temps et les intempéries.
D'accord.
Et l'autre jour, je suis allé en haut du bâtiment du centre culturel, je regardais, il y avait aussi des dégâts de pigeons, mais qui se lavent naturellement, ça se patine bien, pour l'instant. Hein.
Et les croix en inox, de même.
Les croix en inox, on est sûr qu'elles ne vont pas rouiller en dessous de... En dessous de...
D'accord.
De la feuille d'or mat.
D'accord.
Voilà. Alors, c'est amusant, il y a toujours quelqu'un en train de les photographier, ça, je trouve ça très drôle. Quoi. Alors, l'intérieur n'est pas fait. L'intérieur va être recouvert entièrement de fresques. C'est pour ça qu'on m'a demandé de faire une finition un peu grossière pour que ça patine la fresque d'avance, quoi. Et puis les cinq coupoles, il y aura des mosaïques.
Ça signifie qu'aujourd'hui, on peut entrer dans ce...
On peut y rentrer tous les samedis soirs et tous les dimanches matin à peu près.
D'accord.
Mais il suffit de demander, on rentre sans problème.
C'est ça, c'est ce que j'ai bien compris.
Oui, sans problème, il y a un office.
Mais ça n'est pas un chantier terminé.
Ben non, parce que, si vous voulez, quand Vladimir Poutine est venu, il fallait 2 millions pour le... Et donc, l'évêque a demandé s'il pouvait les financer. Il a dit oui, mais on attend, voilà. Okay. Alors, il y a une mosaïque, il y a le Christ Sauveur qui est en mosaïque. C'est ça, c'est assez beau. Et puis après, il y a un tas de fresques très... intéressante, oui. Mais c'est des fresques contemporaines. Hein. Nous, on voulait dans l'esprit de Roublov, tout ça, mais on n'a pas pu l'avoir. Et puis, il y a l'iconostase qui sera fait en pierre après. Pour l'instant, l'iconostase, il est en carton pâte, quoi.
Et depuis l'origine, c'est un chantier de combien de millions d'euros ?
Ben, c'est pas un chantier... Bon, pas très cher, excusez-moi. Bon, mais c'est un chantier de 190 millions, quoi.
Oui. Bon, oui, quand même.
J'aime beaucoup cette photo, le dialogue entre les deux.
Ah oui.
En réalité, ça m'a fait redécouvrir le Sacré-Cœur différemment, qui lui aussi a quatre petits bulbes et un grand bulbe. Et c'était assez...
Ah oui, ça n'était pas vu d'avance, ça.
Non, non, c'était pas prévu.
D'accord.
Et là, je vous montre ça, ce croquis, il est formidable, parce que oui, il est signé 2013 de Kirill. Kirill, qui est toujours le patriarche actuel. Et les griffonnages que vous voyez, c'est lui... Il voulait qu'il y ait un col sous le bulbe. Il trouvait que c'était trop droit. Donc, il m'avait fait rétrécir les trucs. Puis après, il m'a dit que sur le côté, il fallait trouver quelque chose parce que sinon, c'était triste. Et c'est là que sont venues les barrettes de verre avec la feuille d'or. Ça, Et quand je suis passé au Kremlin, j'ai montré ce dessin. Il me croyait à peine parce qu'il dit on n'a jamais vu la signature de Kirill.
On n'a jamais vu ?
La signature de Kirill.
Ah oui.
Il ne signe pas, normalement. Okay. Et vous voyez, il l'a signé.
Ah oui.
Voilà. Et puis celle-là, je vous promets, c'est ça. Donc ça, c'est le jour d'une petite inauguration qu'on a eue. J'avais prévu une maquette que je voulais offrir à Vladimir Poutine. Et il y a un chien policier qui est venu la lécher, il l'a foutu, il l'a bousillé. Elle était en bois très fragile. Donc je ne l'ai pas pu lui donner. Mais j'avais un plan B qui était des dessins.
Oui.
Donc j'en ai signé un, puis j'en avais un vierge, et je lui ai demandé s'il voulait le signer. Je lui ai fait choisir, j'avais trois feutres, un gros, un moyen, un petit. Il a pris le plus gros. Après je lui ai dit signer n'importe où dessus, je m'en fiche, en anglais. Hein.
Oui.
Et puis il a bien réfléchi, il l'a fait vertical, voilà.
Ah ouais, c'est parfait. Ça, c'est un document historique.
Ce sont deux documents historiques.
Historiques, et le chien était français ou russe?
C'était des chiens policiers, c'est une bonne question.
Ouais.
Je pense qu'il était français.
D'accord.
Voilà.
Alors, le Collège des Bernardins, là, nous entrons dans la réhabilitation.
Ah oui, vraiment.
Ah,
oui,
vraiment, là.
Parce que je vais vous montrer quelque chose que vous ne devez pas vous rappeler.
Eh non.
Voilà ce qu'était le Collège des Bernardins.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y avait un petit bâtiment sur le côté. Il y a un petit bâtiment sur le côté. Je suis désolé, je cache la vue. Vous pouvez vous pousser un peu si... Il y avait un petit bâtiment ici sur le côté et un grand mur, donc on passait devant, mais on ne le remarquait pas du tout. Donc nous, notre travail, ça a été de dégager complètement cet espace. Et puis, vous allez voir les différentes interventions qu'on a eues. Donc vous voyez, ça ne se voyait absolument pas. Et aussi, le collège était un petit peu enlisé parce qu'il y avait la Bièvre qui passe en dessous, et la Bièvre débordait, et puis donc le bâtiment s'enfonçait. Donc voilà comment nous l'avons trouvé, et notamment ce pignon, vous voyez, dans un état, et l'escalier de secours. Voilà comment ça a fonctionné. Alors, donc, vous voyez, on a supprimé ce bâtiment, et
ouais,
à partir duquel on a pu faire une esplanade. Vous voyez d'ailleurs, avec la piscine de l'autre côté.
Ouais.
Voilà. Voilà. C'est un autre endroit. On a enlevé cette porte pour retrouver la façade jusqu'au...
Et là aussi, c'est un projet qui a été soumis à appel d'offres, qu'il a fallu gagner.
Non, c'était le Monseigneur Lustiger qui me l'a donné en direct.
Ah oui.
Et
la contrepartie, c'était de définir le projet.
Et ce qui a été fantastique, c'est qu'on a défini le projet ensemble.
Ah, voilà.
C'est-à-dire que, c'est le bâtiment qui a déterminé la programmation. Parce qu'en fonction de ça, il a vu combien il pouvait faire de salles de classe, combien il pouvait faire de bibliothèques, il pouvait faire un auditorium, etc.
C'est dans l'auditorium.
Ah,
une idée lustigée, quoi.
On avait un calque, il avait un feutre bleu, et moi aussi, et on a dessiné ensemble face à face sur une table au diocèse.
Ah,
et ça, ça a été exceptionnel, hein. C'est vraiment, ce sont des moments uniques. Hein.
Ah, ouais.
Et donc, la programmation s'est faite, et quand on est arrivé, le sous-sol, c'était ça. Donc la Bièvre avait remonté, et puis voilà les allusions de la Bièvre, et voilà dans quel état. Donc on visitait, on était à quatre pattes dans cet espace. Et quand il m'a dit qu'il fallait faire une douzaine de salles de classe là-dedans, je ne l'ai pas cru, si vous voulez, au début. Et voilà dans quel état était ce bâtiment, les étages. Donc le projet, on avait une toiture qui avait été refaite au 19e siècle et qui était très peu pentue comme ça. Et nous, notre projet, le voici, celui qu'on a fait, donc c'était en, on a ce projet, on l'a fait en 2004 exactement. On a mis 4 ans à mettre au point les plans et à construire. Et donc la première chose qu'on a fait, on avait fait un auditorium sous le jardin, mais on est tombé sur un boisseau en béton dans lequel ils avaient canalisé la Bièvre. Donc on n'a pas pu le construire à l'auditorium, donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans les toitures.
Oui.
Et on a redressé les toitures, vous allez le voir maintenant. Vous voyez la toiture par rapport à celle-ci.
Ah oui, ça n'a rien à voir.
Donc, alors là c'était formidable parce qu'on a pu faire aussi une toiture en structure métallique, ce qui évitait toute structure gênante et d'avoir la totalité de l'espace. Alors vous voyez ces grandes pointes là, ce sont en réalité les fondations, parce que le bâtiment s'effondrait, donc comme je vous dis tout à l'heure, donc on a repris tout en sous-œuvre. Et il y a plus d'une centaine de pieds qui ont été remis pour reprendre tout le bâtiment, et je peux vous assurer qu'il ne peut plus bouger maintenant. Et vous voyez toutes ces... Et maintenant, voilà, donc on arrive le chantier avec... Et là, maintenant, voilà ce que ça donne maintenant avec une grande douve.
Alors, le toit a été refait, mais les façades ont été restaurées.
Toutes les façades ont été refaites, bien sûr.
Elles sont telles que celle-là.
Ah oui, c'est ce qu'on a gratté et ce qu'on a retrouvé. Mais surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a fait des douves pour voir la naissance du bâtiment qui en était né 4 mètres en dessous, si vous voulez.
Mmh. Oui, oui, tout à fait.
Et là, voilà, maintenant, comment on a retraité le... C'est intéressant de voir, regarder la rosace, où est-ce qu'elle était. Elle était remplacée par une fenêtre, et nous, on l'a refaite à l'identique.
Ah oui, oui, oui.
C'est très, très beau.
Ouais.
Et puis l'escalier, au fond, qui est très discret, en vert, vous ne voyez plus, c'est plus l'échafaudage qui était précédemment. Donc voilà. Et regardez cette douve. Ça, c'est très intéressant, parce que ça donne la racine du bâtiment.
Ouais.
Et alors, c'est, non seulement ça donne la racine, mais ça amène de la lumière dans la partie inférieure, dans les nouvelles salles de classe.
Ouais.
Et ça aussi amène de la lumière dans la bibliothèque. Vous voyez, on est dans moins un, et on a une lumière extraordinaire. Et puis en plus, on est face à l'architecture. Vous voyez, sur votre gauche, c'est la douve, et on aperçoit la naissance du bâtiment. Donc c'est très très beau, c'est un endroit très agréable, c'est une bibliothèque qui n'est pas connue. Et alors cette partie-là, on l'a creusée, on l'a confortée, vous voyez, comme ça, et on a retrouvé là. Et on a retrouvé ça, vous imaginez que tout ça était dans la boue. Alors ça, c'est extraordinaire. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu garder l'espace comme cela, il a fallu que je le compartimente. Alors, vous voyez, alors bien sûr, il a fallu passer tous les courants forts, les courants faibles, et tout ce que vous pouvez imaginer, la climatisation, etc., hein. Et voilà, maintenant, c'est devenu comme ça.
Oui.
Donc, vous voyez, on n'a pas essayé de refaire des portes en chaîne avec des bâtis, etc. On a fait quelque chose de contemporain, la climatisation au-dessus, enfin, c'est efficace, quoi.
Oui.
Et puis, l'étage, qui était devenu une caserne de pompiers, ils avaient d'ailleurs enlevé un des poteaux pour pouvoir faire demi-tour plus facilement. Et vous voyez... Donc, on a regratté, renettoyé, oui, les fuites, tout ce qu'il y avait, enfin, on imagine. Et voilà ce que c'est devenu aujourd'hui. Voilà. Donc, ça vaut le coup de temps en temps de... Donc, je vous explique aussi comment ça s'est passé. Le diocèse de Paris a construit un petit bâtiment qu'il a mis en location. Et avec les revenus de la location de cet immeuble, qui d'ailleurs ça ne s'invente pas, c'est rue de la Ville d'Évêque, avec ce bâtiment, les loyers ont permis de rembourser sur 30 ans l'emprunt qui a été fait pour refaire les Bernardins. Il y a eu aussi beaucoup de sponsors.
Oui.
Et puis alors la toiture, donc on a refait, donc vous allez voir, on a mis cette structure. Alors c'est étonnant, mais on a eu plein de problèmes parce que les voisins qui avaient une belle vue, après, étaient mécontents parce que le toit était redevenu à une hauteur... Alors, on a eu beaucoup de recours à ce moment-là.
Et beaucoup de recours, et ces recours donc n'ont pas abouti, mais ça retarde beaucoup, ces affaires-là.
On a pris quelques mois, c'est tout.
Quelques mois.
Et voilà, c'est un espace extraordinaire. Il y avait, c'est devenu un amphithéâtre où ils font des concerts, des conférences, etc.
Oui, tout à fait.
Voilà.
On est tous allés là.
Et ça devait être sous le petit jardin. Et ça, c'est la visite du pape qui est venu l'inaugurer en 2008.
Tout à fait.
Voilà. Je voulais que j'entame sur le Collège de France. Il n'y en a plus que deux, hein, ça va aller vite. Hein.
Alors, mais bien sûr.
Le Collège de France, voilà.
Ça ressemble, au fond.
Le Collège de France, il fallait faire un grand amphithéâtre. On ne sait pas où le faire. On s'est dit, on va le mettre sous la cour. On a creusé cette cour. Et c'est l'amphithéâtre de Marguerite de Navarre qui est juste sous cette cour et pile en dessous. Alors imaginez, vous voyez les fenêtres au fond. Entre chaque fenêtre, vous avez un pilier de pierre. Eh bien, ce sont ces piliers de pierre qu'on a prolongés et qui deviennent la structure du bâtiment. Tout autour, tout ce qu'il y a autour, tous ces piliers ici et là ont été
prolongés.
Alors après, voilà, la cour, on l'a quand même remis en état. Et voilà ce qu'on a fait en dessous.
Absolument.
Ça, c'est un projet intéressant qui a déjà une douzaine d'années, 14 ans, je crois. Et les caves. Alors, les caves, je vais vous dire, c'était...
Ça, c'est pas les caves des Bernardins, c'est celles du Collège de France.
Oui, mais c'était bourré de tuyaux. C'était une chaufferie, ici. Et il y avait des caves à charbon. Donc, on s'est branché sur le chauffage urbain. On a enlevé toutes les câbles à charbon et tout, et c'est devenu des salles des profs. Vous voyez, c'est tout simple, mais c'est super, oui. Voilà.
Ah,
voilà,
oui.
Voilà ce qu'on a fait des anciennes chaufferies.
Oui.
Et puis, à côté, il y a un petit...
Ah oui, l'entrée est pas mal. Hein.
L'entrée, oui.
Oui.
Voilà, ça c'était vraiment l'endroit où l'on stockait le charbon, et maintenant c'est devenu des salles pour les profs. Voilà. Vous voyez, là, c'est vraiment la rencontre d'un élément ancien, les fondations de ce Collège de France, et on l'a traité d'une façon contemporaine, ne serait-ce que par la lumière, par le mobilier. Bon, ça a déjà quelques années, mais c'est toujours sympa. Et alors, on en termine avec le Lutetia. Voilà le Lutetia il y a 5 ans. Hein, 5 ans. Et voilà comment c'était il y a 5 ans. Voilà. Les ouais. sols, les faux marbres sur les faux marbres sur les colonnes, etc. Voilà l'accueil lorsqu'on arrivait. Et la grande galerie.
Alors quel est quand le projet s'ouvre, quel est le propos du propriétaire? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme l'archevêque Monseigneur Lustiger, voilà ce que nous allons faire, ou bien il dit...
Il dit, j'ai appelé 7 architectes,
oui.
Faites-moi un projet.
Faites-moi un projet.
Et je ne paye pas. Alors, non, je dédommage pas. Non, mais c'est vrai, je vous jure.
Mais oui.
Donc, il faut se gratter la tête pour trouver une idée. Et nous, je pense que l'idée qu'on a trouvée, que les autres n'ont pas eue, c'est une coïncidence, hein, c'est une chance, c'est de créer un jardin au milieu du Lutetia pour faire revenir la lumière. Donc on a supprimé un des salons qui était à côté du Saint-Germain, qui était là à droite, c'était le salon Saint-Germain. Après on a supprimé le salon et on a enlevé la dalle et on a recréé un jardin. Et je crois que c'est ça qui l'a séduit.
Ah oui.
Ça s'est passé comme ça, la lumière.
Oui.
Et parce que c'était un grand défaut de ce palace, il n'avait pas de lumière.
Oui. Alors. Donc là, on continue la visite ancienne.
Alors, regardez bien, vous allez la revoir, cette image, mais en grattant les peintures, il y avait 7 couches de peinture, et sous ces 7 couches de peinture, on a retrouvé des fresques incroyables. Alors, donc, vous allez voir, on est quand même qu'en 1910, hein, mais... Voilà ce que c'était. Et ça, c'était le Saint-Germain, avec cette verrière qui ne s'éclairait pas, d'ailleurs, parce qu'elle était... Elle fuyait, donc ils avaient mis des goudrons, du pack salut, du goudron
comme,
avec métal.
Comme nous ici.
Voilà. Et donc c'est le Saint-Germain que d'ailleurs les gens avaient un petit peu mystifié. Hein, c'était. Et voilà notre. Donc c'était. Je sais plus. Ah, ça c'était ce qui est devenu l'orangerie maintenant, c'est une dernière salle au fond. Les couloirs, les chambres. C'était la suite Armand, d'ailleurs.
Mais là, on est toujours dans l'ancien ou le nouveau?
Oh, ça, c'est pas gentil, ça.
Ah, ah oui.
Bon,
oui.
Ça, c'est le nouveau, ça.
Non. Si? Non.
Voilà, donc, l'état dans lequel c'était.
Oui.
Les salons, la oui. brasserie.
Ah, voilà le projet.
D'accord. Et voilà. Et alors, le jardin, il est en été, c'est cette partie ici, là, ouais, ici, là.
Ouais.
C'est une dalle dont on a enlevé, on a supprimé un salon pour ça. Ce qui fait que l'orangerie, qui est tout au bout, est très lumineuse, surtout qu'ici, il y avait un local technique qu'on a mis à 17 mètres en dessous du bâtiment, et c'est devenu une arrivée de lumière énorme, c'est assez formidable, ça. Et ça, c'est la piscine en dessous qui fait 15 mètres, 16 mètres.
Avec
il y a des personnes ici qui sont abonnées, d'ailleurs.
Du même nombre de chambres ou pas?
Non, on est passé de 224 à 184. Ou 232 à 184.
D'accord.
Parce que l'idée, c'était de mettre une chambre et une salle de bain avec une fenêtre sur toute la façade. Non, toutes les salles de bain ont une fenêtre. Donc, on a perdu quelques chambres.
Ouais.
On voit sur ce plan avec les beaux windows, puis à chaque fois, il y a la salle de bain à côté. Il faut dire aussi que c'est quand même un hôtel où les premières chambres sont à 1 200 €. Et j'ai visité la suite l'autre jour, j'ai demandé, quand on était en train de livrer, j'ai demandé le prix, c'est 22 000 € quand même. La nuit, hein, la nuit. Alors après, donc voilà
le
projet. Regardez bien, c'est intéressant. Alors la brasserie, elle n'est pas encore terminée, mais il se trouve que le... le chef qui s'appelle Paceda, Gérald Paceda, était un petit peu souffrant en ce moment, et donc on a pris du retard et on attend qu'il se rétablisse. Alors voilà la nouvelle entrée avec la brasserie qui va ici. Le petit hall qui est devenu ça, tout simple, oui, avec les... Alors le bois qu'on utilise très souvent, c'est de l'eucalyptus. Voilà. Et puis, alors les lustres ont été redessinés, vous voyez, ils sont tous, on a dessiné une vingtaine de luminaires différents, et à chaque fois on a remis là aussi les logos de la ville de Paris, de la de l'Utesse, là, qui est le logo de la... Et voilà. Là on aperçoit justement un décor, et c'est sur ces documents-là qu'on s'est dit on va gratter pour voir si on retrouve des choses en dessous.
Voilà. Les revoilà, oui.
Vous voyez qu'on a remis ça. Enfin, il faut mettre de la vie, hein. Ils sont pas longs. Un hôtel, il faut 3 à 6 mois pour les mettre. Et eux, ils sont rentrés alors que le chantier n'était pas fini. Alors, ça, c'est la grande galerie. Alors, ça, c'est la nouvelle galerie qui a repris de la fraîcheur. Et voilà donc les fresques qu'on a retrouvées qui sont incroyables.
Oula, oui, ça, c'est cool. Ah, oui.
Je voulais pas non plus qu'on tombe dans quelque chose d'un peu vieillot. Et comme il y avait peu de fresques au centre, c'est pour ça que j'ai mis ce grand miroir qui reflète un peu beaucoup de choses la nuit. C'est assez sympa. Ouais. Et puis il y a de la lumière dedans et ça fait un effet. Et ça brutalise un petit peu pour pas que ça soit une restauration trop. Enfin, surtout que c'est pas d'une grande qualité de peinture. C'est de l'art décoratif. Si le mur du fond est intéressant là. Et regardez le bar qui est très très beau et très long et qui est fait en verre miroir galbé. Alors il y a un intérêt, c'est que les deux extrémités du bar, on peut se mettre face à face et le bar n'est qu'au centre, la partie professionnelle. Voilà. Voilà. Et donc on a aussi voulu ouvrir ce bar vers la ville aussi, ça c'était assez important. Bon, il y a encore des stores à mettre, il y a un tas de choses.
Ça, c'est vers Raspail, là.
Ça, c'est vers Raspail et vers le square Boussicot. Alors ça, c'est le salon qui était ce qu'on appelle le Saint-Germain.
C'était à l'ouverture ou c'était
ça, c'était en 1910.
Ah oui.
Parce que tout ce mobilier avait disparu. Oui. Ça avait été substitué par des mauvais meubles des années 70. Hein.
Ah oui.
Et voilà, nous... Donc vous voyez, on l'a retrouvé quand même l'esprit Lutetia, mais avec... Alors vous voyez au plafond, c'est Fabrice Hibert qui a fait cette verrière, qui est assez étonnante parce que quand il y a du soleil, il y a de la couleur qui se déplace dans la pièce. Alors on a dessiné tout le mobilier aussi, avec un peu d'inspiration, les luminaires, tout.
Magnifique, oui.
Vous voyez, c'est un changement important, mais ce n'est pas une destruction. C'est au contraire, c'est une réhabilitation. On n'a pas souhaité tout refaire, tout changer. C'est important de ne pas bousiller un lieu comme ceci, si vous voulez.
Eh oui.
Donc, c'est une sorte de rafraîchissement, mais il n'y a rien de plus difficile que faire ça, si vous voulez.
Oui, tout à fait.
Et alors, les cours, on a refait toutes les cours. Vous voyez, la cour qu'on a creusée, c'est ce que vous voyez là sur le côté ici. C'est la cour qu'on a creusée. Et alors, donc... En allant dans cette cour, on découvre tous les carrelages sur la façade, toutes les mosaïques qui sont vraiment très très belles. Et donc on les a fait refaire pour, vous voyez ?
Ah oui.
Ah, c'est formidable si vous voulez. Ça, il y avait avant du velours tendu dans cette pièce, avec un plafond et des corniches. Mais elle n'avait pas de lumière. Et elle empêchait la lumière de rentrer dans le salon à gauche et à droite. Et voilà. Oui, ça c'était la proposition qu'on a faite et ça c'est ce qui s'est réalisé.
Ah oui, ça, ouais.
Alors on avait mis de côté les anciennes sculptures de Takis, les sculptures d'Ikili aussi, vous voyez, on a remis tout ça. Et là maintenant Alors vous savez que l'isolation était faite avec de la paille, avec du chanvre, parce qu'il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas le polystyrène, il n'y avait pas la mousse de verre, de papier.
Mais il y avait déjà de l'isolation.
Et donc c'était une isolation qui était faite avec du bacula, et puis de la paille, et puis du plâtre.
Il n'y a pas eu le feu au Lutetia ?
Bon, je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas eu le feu, parce qu'en plus, tous les fils étaient à nu, pour moi, c'était une bombe incroyable. Hein.
Heureusement que les Allemands s'y sont installés.
Et vous voyez, le local technique, au fond, on l'a ouvert, on a fait cette cour, et qui ramène de la lumière maintenant dans l'oranger.
Magnifique.
Et ça, c'est les brasseries. Alors, ça, c'est un document qu'on a trouvé ancien, où la brasserie était sur deux niveaux. Donc, la brasserie, après, quand elle avait été refaite par Sonia Riquiel, avec des miroirs tendus en plafond, était très basse. Elle faisait 2,20 m ou 2,30 m d'hauteur sous plafond. Donc, nous, on a tout cassé pour retrouver cette double hauteur. Alors, ça, c'était encore une époque intermédiaire. Donc, voilà notre projet, où on va retrouver la même hauteur. Et j'ai demandé à un artiste qui s'appelle Jean Le Gac de raconter un peu l'histoire du Lutetia à travers des fresques. Voilà, puis après, il y aura une terrasse. Et vous voyez, tout c'est... Bon, il faut imaginer toutes les reprises, tout ce qu'il a fallu faire.
Bien sûr.
Et là, sur la terrasse aussi, on a remis un grand miroir qui double la dimension de la cour. Ça, c'est la terrasse supérieure de la future brasserie à l'arrière. Et les couloirs, vous voyez, c'était ça. Et c'est devenu ça maintenant. Parce qu'il y a des photos incroyables. En réalité, c'est des placards techniques. On a fait faire des portes avec des photos éclairées rétroactives par derrière en LED. Et voilà ce que ça donne, quoi. Voilà, les couloirs, c'est un truc incroyable. C'est entièrement en bois. C'est comme un tableau de bord de Riva ou de Rolls. Et c'est du papyrus. C'est du... Non, eucalyptus. Voilà.
Ah oui, d'accord. On revient à la vieille chambre et la nouvelle.
Oui, oui, j'ai pas oublié. Hein.
Oui, oui. Et là, voici.
Bon, voilà l'esprit des chambres.
Parce que ce qui est commun, c'est la couverture sur tout la largeur du lit. Ça, c'est commun.
C'est un grand point commun, oui.
Et voilà. on recommence.
Alors, tous les meubles ont été dessinés, vous imaginez, les banquettes. Le fond de lit, c'est une boiserie teintée bleu marine.
Ouais.
Les verres, les appliques, c'est fait à Murano. Enfin, la plupart des choses sont faites dans les ateliers.
Ouais.
Voilà.
Super. Et ça, c'est combien la nuit?
On peut faire un prix. Voilà, ça c'est l'esprit du Tessia d'aujourd'hui. Il y a des choses qui restent, il y a des petits détails, les carroyages, la ligne, il y a plein de petits détails en réalité qui reviennent, mais il faut vraiment connaître très bien l'histoire.
Oui.
Non. Non. Ils m'ont demandé de faire le test, mais j'ai pas eu envie.
Est-ce que l'œuvre d'Armand est disparue?
Non, les œuvres d'Armand, j'en ai gardé quelques-unes qui vont être mises en place. Et d'ailleurs, l'œuvre d'Armand, la table et les chaises, elles sont dans l'entrée déjà. Et voilà les salles de bain. Alors, je peux vous dire que les baignoires sont découpées dans des blocs de marbre massifs. Elles pèsent, je sais plus, 800 kilos chacune, sans eau. Les lavabos ont été découpés dans des blocs de marbre. C'est un marbre... dans la famille des Calacatta, ça vient de Carrare, Calacatta Borghese, et voilà. Au sol, vous voyez, il y a une espèce de petite, pas une mosaïque, mais un dessin, ça reprend le dessin de la façade.
Ouais.
Chaque fois, il y a un tout petit détail comme ça.
Ouais, bien sûr.
Et on a dessiné les robinets, et vous voyez, les portes, c'est des portes coulissantes en verre qui reprend aussi des motifs du Lutetia, des cannelures.
Bravo. Ah ouais.
Voilà. Ça, c'est pour vous faire regretter l'ancienne. Voilà. Vous voyez les baignoires à gauche, c'est un bloc de marbre massif. Vous voyez, c'est assez incroyable. Hein, et toutes les portes en verre sablé, bronze. Ça, c'est la piscine. La piscine avec ses colonnes. Et voilà. Et donc, vous apercevez les fenêtres, et quand vous levez la tête, et vous voyez vers le boulevard Aspail. Vous voyez, c'était un chantier. Là, on est à 12 mètres sous le sol, mais on est arrivé à presque 23 mètres. Voilà, ben, je vous ai tout dit. Hein.
On va rallumer la lumière pour les questions que les uns ou les autres vous aimeriez poser avant que nous nous séparions. Donc, quelques minutes de questions. Le micro va vous être donné. qui veut poser une première question? Elle ne vient pas, alors j'en profite. Si, madame. Madame, première question.
Merci, monsieur. Je suis très, très proche du Collège des Bernardins. Et nous nous étonnons toujours du manque de cohérence entre la rue et le parvis.
Et le parvis.
C'est ce qui est au-dessus de ce que vous appelez la bibliothèque. Donc il y a, si vous voulez, il y a une partie voirie et une partie Bernardin. Et cette surface n'est pas cohérente, en tout cas visuellement.
Alors je vais vous répondre tout de suite. Il y a un projet qui a été fait. Il est à la ville de Paris et on attend. Il a été fait il y a 7 ou 8 ans.
Oui.
Donc c'est fait, ils ont les papiers. Et bon, ils ne veulent pas le faire, ils veulent le faire, ça dépend des jours.
Donc il n'y a pas d'espoir
donc,
que ça s'arrête.
Vous pouvez voir le projet si vous allez le consulter, il est à la ville de Paris.
D'accord, c'est bien.
Autre question.
Et puis vous n'avez pas assisté.
Je suis d'accord avec vous. Donc,
Oui, vous n'avez pas insisté sur ce côté extraordinaire de votre projet, c'est-à-dire comment la ventilation et toute la géothermie a été mise en place.
Oui,
c'est
sûr.
Remarquable.
Mais maintenant, c'est naturel.
Y a-t-il une autre question? Monsieur.
Et bonjour, monsieur le membre de l'Institut. Juste une toute petite question. Qui était l'architecte de l'immeuble de Météo France qui a été démoli pour réaliser le centre spirituel? Et deuxième question, à côté du Collège de France, il y a un immeuble daté peut-être de la même époque qui se rapproche beaucoup à l'immeuble de Météo France. Peut-être était-ce le même architecte? Merci.
Ah oui.
Écoutez, j'ai oublié qui était l'architecte, mais franchement, entre l'immeuble mitoyen du Collège de France et Météo France, il y a un univers, parce que le bâtiment des années 40 ou 35-40, dont je connais pas l'architecte non plus d'ailleurs, est de très grande qualité. Il y a des très beaux volumes, il y a des détails magnifiques, alors que dans le bâtiment de Météo France, il y avait vraiment rien. Voilà.
Merci beaucoup. Égal.
Est-ce que ça marche? Oui. Je connais un peu Jean-Michel Villemotte, puisqu'il m'a fait l'honneur de me demander de l'accueillir sous la coupole. Donc, j'ai raconté un peu sa vie et son talent. Je trouve qu'à travers ton exposé, tu as découvert beaucoup de choses que tu avais à dire. Mais il y a tout un aspect de ton œuvre et de ton travail qui n'apparaît pas, et pour cause, il s'agit de remodeler des villes ou des centres ou des quartiers entiers, ce que tu fais à Nice, ce que tu fais à Cagnes, et c'est cet aspect-là de ton travail que je voudrais que tu nous expliques davantage.
Disons que là, je trouvais intéressant pour les Journées du Patrimoine de choisir 4 bâtiments à Paris.
Oui.
Je trouvais ça bien de faire ça. Sinon, ben, ça fait une partie de notre travail, c'est de requalifier des centres-villes. On en fait celui de Grasse, de Cagnes-sur-Mer, on en fait plusieurs en ce moment, même beaucoup. Et je pense que c'est intéressant de travailler sur le rapport entre le piéton et la ville, et de retrouver un équilibre aussi entre le minéral et le végétal, et puis et la respiration qu'il peut y avoir et le bien-être d'habiter dans une ville. Donc moi, ce qu'on essaye de faire, c'est pas des projets pharaoniques, c'est des projets qui ramènent le plaisir de vivre dans des quartiers, le plaisir de retrouver les attentions à l'égard des citoyens, et donc aussi d'y mettre du bon sens en ce qui concerne les circulations, les stationnements, les transports en commun. Enfin, tout démarre dans des transports en commun. C'est comme ça, à partir de là qu'on redéfinit les villes. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On a travaillé sur le Grand Moscou, par exemple, avec Antoine Grenbach. Tout notre premier travail, c'est comme ce qui est en train de se faire pour le Grand Paris, c'est déjà la circulation, les trains, tous les transports en commun, et puis de refaire une sorte d'irrigation de la ville. Et il n'y a qu'avec l'irrigation de la ville qu'on peut redévelopper la ville, quoi. Et ça me passionne. On va refaire aussi le plan urbain d'une ville, une petite ville en banlieue qui s'appelle Argenteuil. On va, donc là, on va aussi dessiner une ligne de mobilier urbain, on va dessiner et on va essayer de retrouver une sorte de charte urbaine dans laquelle on va proposer des matériaux pour les sols, on va proposer une gamme de couleurs, de mobilier. Enfin, c'est intéressant. Puis de savoir aussi qu'il y a des bâtiments dont il faut avoir le courage de séparer pour aérer les villes, pour aérer. Donc c'est un sujet très intéressant.
Eh bien, cher Jean-Michel Villemotte, un très très grand merci. Ceci conclut nos deux journées de conversation, ce samedi et ce dimanche. Il est le temps de venir vous remercier d'être venu aujourd'hui et de vous dire rendez-vous quand de nouvelles manifestations auront lieu dans cette maison. Et pour que vous soyez les premiers informés, n'oubliez pas de nous donner votre adresse électronique avec les documents que vous trouvez à la sortie. Encore un grand merci de votre présence. Je dois dire que, pour ce qui me concerne, ça a été une joie d'accueillir Jean-Michel Villemotte pour clore ces entretiens. Merci beaucoup.